Bonjour, bienvenue à tous dans Parlons Ligue 1 ce samedi 17 septembre. Donc nous allons parler de la quatrième journée de Ligue 1. Donc bonjour à tous, hein, bonjour Marion.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Donc nous allons commencer par rappeler donc les résultats de cette quatrième journée de Ligue 1. Avec pour commencer en ouverture, c'était vendredi à 20h45, c'était l'AS Saint-Etienne qui se déplaçait sur la pelouse du Paris Saint-Germain qui a arraché le match nul un partout. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés 3-1 au Parc OL face à l'Olympique Lyonnais, 3-1 pour Angers face à Dijon, 2-1 pour Bastia face au Toulouse Football Club, 1 partout entre Guingamp et Montpellier, 4-1 pour Monaco au stade Pierre-Mauroy contre Lille, 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine au stade du Moustoir contre Lorient, 3-0 pour Metz face à Nantes, 2-0 pour Rennes face à Caen, et enfin 3-2 pour l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille, un match de clôture le dimanche à 20h45 de cette quatrième journée. Alors, nous allons donc faire l'analyse match par match, Marion.
Oui.
Donc, à commencer donc, par le premier match de la journée, c'était l'AS Saint-Etienne qui se déplaçait sur, au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, qui a réussi à arracher le match nul un partout. Et encore une fois, on a vu le Paris Saint-Germain en difficulté sur ce match, et qui n'arrivait toujours pas à imposer son jeu, Marion.
Oui, en effet, c'est vrai que ils ne font pas un début de saison comme les autres. Hein. Là, on a l'impression qu'ils sont plus en difficulté que d'habitude, et ça peut être bien pour le football français.
Voilà, donc on rappelle que le Paris Saint-Germain a ouvert le score sur pénalty par l'intermédiaire de Lucas, hein. Et que donc ensuite on a eu égalisation à la 90e plus 3 pour l'AS Saint-Etienne de Robert Béric. C'est incroyable ce qu'ils ont fait Saint-Etienne. Au Parc des Princes, ils étaient menés 1-0. À la dernière minute, ils vont égaliser, ils arrachent le match nul. Saint-Etienne, qu'on connaît une équipe quand même plutôt défensive, qui arrive à aller mettre un but face au Paris Saint-Germain alors qu'ils sont menés, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait quand même. Hein.
Ouais, bah c'est clair. C'est vrai que c'est la preuve qu'ils voulaient absolument pas perdre et ils l'ont montré. Donc. C'est très bien.
Très bien. Donc voilà pour ce match, tout ça pour dire que voilà. Et puis si on parle rapidement de l'AS Saint-Etienne donc a arraché un point très précieux pour eux, j'imagine, face au Paris Saint-Germain. Hein.
Oui, en effet.
Voilà, bien, on passe au deuxième match. Donc c'était l'Olympique Lyonnais qui recevait les Girondins de Bordeaux. Et les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés 3-1 au Parc OL. Donc on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit l'OL a besoin de se relancer suite à sa défaite 4-2 face à Dijon. On avait dit Bordeaux a besoin d'enchaîner 2 victoires face à sa victoire qu'ils avaient eue en marge de la 3e journée. Et l'Olympique Lyonnais s'incline encore une fois pour la 2e fois. Première défaite au Parc OL en plus.
Oui, c'est vrai que c'est...
Ça a été le match, comme l'a dit Jean-Michel Aulas, le match cauchemar pour l'Olympique Lyonnais. Expulsion de leur capitaine Maxime Gonalon qui a pris 4 matchs de suspension par la Ligue, enfin c'est vraiment le match cauchemar. Ouverture du score quand même, on le rappelle, à la 2e minute par le biais du numéro 26 à Dokaloulou. Et puis 33e minute, Malcolm égalise pour Bordeaux. 71e, Grégory Sertic donne l'avantage à Bordeaux. Et 90e, Jérémy Ménès aggrave le score.
C'est vrai que normalement le dernier but, ils doivent jamais le prendre. Quand t'es déjà mené 2-1, on essaye de ne pas prendre un but à la 90e.
Voilà, et puis... Qu'est-ce qu'on peut dire quand même du carton rouge de Maxime Gonalon? C'est vrai qu'il a fait un vilain geste. Alors d'abord, on a vu quand même Rudy Bucquet sortir d'abord un carton jaune, puis ensuite sortir un carton rouge.
Oui, en effet.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une influence des joueurs du Girondin de Bordeaux quand même? Parce que pourquoi est-ce qu'il aurait d'abord sorti le carton jaune pour changer finalement de décision et sortir le carton rouge? Est-ce qu'il n'y a pas eu une pression de la part des joueurs du Girondin de Bordeaux? Je ne dis pas que le carton rouge n'était pas valable, mais il est quand même revenu sur sa décision, ce qui est extrêmement rare. D'autant plus qu'ils ne veulent pas de la vidéo, alors pourquoi est-ce qu'ils reviennent sur leur décision comme ça?
Après, c'est vrai que on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'était pas sur la pelouse. Si ça se trouve, Gonalon a fait ou dit quelque chose après le carton jaune qui n'a pas plu à l'arbitre. On ne sait pas et on...
Oui, mais il n'a pas mis un deuxième carton jaune, il a mis directement un carton rouge, c'est ça qui est étonnant. Il n'a pas mis un carton jaune puis un autre, par exemple, pour contestation, il a directement mis le carton rouge. Donc c'est ça, moi, que je ne comprends pas bien. Une décision quand même bizarre de Rudy Bucquet. Bon, sinon, 75e carton jaune pour Raphaël, 85e carton jaune pour Rachid Ghezal, 60e carton jaune pour Diego Contento. Alors, l'OL, donc deuxième défaite en deux matchs, vraiment sur la mauvaise pente. Hein, ils ouvrent le score à la 2e minute, ils enflamment le Parc OL, finalement ils perdent. Et c'était le même scénario quand il dit que Corentin Tolisso avait ouvert le score et ils perdent finalement 4-2. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand l'Olympique Lyonnais ouvre le score? Comment ça se fait qu'ils perdent comme ça?
Oui, bah c'est vrai que je pense que c'est parce qu'ils ouvrent le score rapidement, trop rapidement même des fois. Et du coup, ils les concentrent tout de suite. On l'a vu, hein, ils n'attaquaient plus, ils ne pressaient plus. Il y avait un relâchement. Après, c'est vrai que on a pu voir que ça leur a servi de leçon pour la Ligue des Champions. Après, on n'est pas là pour en parler, mais...
En effet, on reparlera quand même, on fera un petit point sur la Ligue des Champions et l'Europa League quand même. Hein. On fera un voilà. petit point exceptionnel dans cette émission, bien
mais
sûr.
Mais on a donc remarqué que ça leur a servi de leçon et qu'après, ils ont ouvert le score et qu'ils ont su garder l'avantage.
Ouais. Alors donc, ce match, c'est vrai, c'est quand même la première défaite de l'Olympique Lyonnais au Parc OL. Jean-Michel Aulas était extrêmement touché, entre guillemets, par cela. Première défaite au Parc OL. Est-ce que Jean-Michel Aulas s'attendait à ce que la première défaite au Parc OL soit contre les Girondins de Bordeaux?
Je pense pas.
Je ne pense pas, en effet. Et puis l'Olympique Lyonnais a perdu son leader Alexandre Lacazette sur blessure. À la 90e minute, il sort sur blessure et est blessé certainement pour au moins un mois, si ce n'est plus. Il a loupé déjà le match contre le Dynamo Zagreb, il va louper le match contre Marseille, contre Saint-Etienne pour le derby, il va encore louper le match contre Séville pour la Ligue des Champions. Grave handicap pour l'Olympique Lyonnais de perdre son joueur en plus à la dernière minute comme ça.
Oui, en effet, oui.
C'est vrai que c'est quand même...
Après, on a vu que Cornet est capable aussi de faire des très bons matchs. Hein. On l'a vu, encore une fois, contre Zagreb. Donc c'est vrai que là ils avaient fait un très bon match et Maxwell Cornet avait été le joueur du match apparemment. Hein, donc c'est vrai que apparemment Maxwell Cornet peut monter en puissance.
Voilà, donc en effet j'ai la vidéo hein, concernant l'intervention de Gonalmon, hein, si vous voulez. Regardez la vidéo donc, que j'ai concernant l'intervention de Gonalon. Donc voilà, c'est là. Gonalon est là, voilà. Et donc voilà, on va voir le ralenti. Donc d'abord, on voit qu'il décide de mettre un carton jaune. Et puis ensuite, il met finalement un carton rouge.
Je pense pas que ça vaille le carton rouge, quand même.
Alors éventuellement, ça peut valoir un carton rouge. Est-ce que ça vaut derrière 4 matchs de suspension? Je pense que ça ne vaut pas 4 matchs de suspension quand même.
Ouais.
D'autant que sur l'ouverture du score d'Aldo Kaloulou, on a eu une longue discussion entre Rudy Buquet et son arbitre de touche.
Ouais.
On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que finalement le but était pour moi parfaitement valable. J'ai l'impression que Rudy Buquet n'était pas dans un grand match pour être élu meilleur arbitre de l'année.
Oui.
Hein. Bon. Voilà. Ma foi, finalement, l'OL s'incline. Ensuite, donc c'était Angers. Donc Dijon Angers recevait Dijon et Angers s'est imposé 3-1. Ça fait du bien à Angers bah, parce que c'est tout simplement sa première victoire à Angers. Première victoire à Angers contre Dijon qui avait réussi à faire tomber l'OL et qui tout de suite rechute dans une défaite.
Oui, alors est-ce qu'ils se sont déconcentrés ou alors c'était trop dur pour eux, sachant qu'ils ont gagné contre Lyon, contre Angers? Et je pense qu'ils étaient quand même capables de...
Voilà, et puis on rappelle quand même, Angers a été réduit à 10, un carton rouge dès la 34e minute de jeu. Et sachant que c'est Dijon qui a ouvert le score. À la 8e minute par Frédéric Samaritano, égalisation à la 15e par Famara Diédlou, et puis à la 34e, on a donc eu expulsion de Billy Kitefonfon. Et à la 51e, expulsion du côté de Dijon cette fois-ci pour Jordan Marie. Est-ce que c'était vraiment un match où ça jouait ou est-ce que c'était un match aller les fautes? Un carton rouge de chaque côté, des équipes faibles depuis ce début de saison, qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah moi, c'est vrai que j'ai pas vu le match donc je sais pas du tout, mais c'est vrai que je pense que Dijon aurait pu faire mieux.
C'est sûr. Ensuite, donc c'est Bastia qui recevait Toulouse, et là c'est quand même une petite surprise, c'est le Sporting Club de Bastia qui s'est imposé 2-1 face aux hommes de Pascal Duprat. Alors, Pascal Duprat qu'on voyait quand même beaucoup attaquer, etc., mais qui avait quand même, on le rappelle, été tenu en échec par la AS Saint-Etienne à la journée précédente, cette fois-ci perd. Est-ce que ça commence à être plus difficile pour Pascal Duprat là hein?
C'est vrai que Toulouse perd
contre Bastia. À l'image de leur fin de saison de l'année dernière.
Hein. Ils sentaient vraiment costaud, vraiment capable de terminer dans les premières places du classement. Hein. On n'était pas premier, mais bon, voilà. Là, c'est vrai qu'ils nous ont un peu déçus.
Ouais, en effet, ouais. Et puis, Bastia, c'est toujours des points qui sont pris, des points précieux pour une équipe comme Bastia qui va certainement quand même tenter de ne pas descendre cette saison aussi. Donc, c'est quand même des points importants pour Bastia. Hein.
Ouais.
Ensuite, donc, Guingamp a été tenu en échec par Montpellier sur sa pelouse, un partout. Guingamp qui était leader provisoire à la fin de la troisième journée de Cite Ligue 1, qui est tenu en échec par Montpellier, un partout. Ouverture du score à la 11e minute de Morgan Sanson pour Montpellier. Égalisation pour l'en avant Guingamp à la 36e minute de Marcus Coco. Guingamp donc qui ne s'impose pas face à Montpellier chez eux. Est-ce que ça peut être décevant pour pour ceux qui étaient leaders avant cette quatrième journée de la Ligue 1 ?
Écoutez, c'est vrai que ça peut être décevant parce que... Ils étaient leaders et on pensait justement qu'ils allaient tout faire pour le rester le plus longtemps possible. Là, du coup, résultat, ils sont plus leaders. Bon.
Voilà.
Est-ce qu'il y a eu un peu de relâchement je sais pas.
C'est possible. Et puis, on a eu quand même aussi Ludovic Blas qui a joué ce match avec l'en avant Guingamp. Ludovic Blas qui a fait un assez mauvais match. Hein, qui n'a joué que 3 ballons durant ce match. Qui en a gagné 2, qui en a perdu 1, qui a fait 0 tir durant ce match. Ludovic Blas, bon, c'est un espoir, mais il n'a peut-être pas encore le niveau pour jouer en pro.
Bon, il a été pris quand même dans l'équipe de France Espoir. Je pense que c'est quand même un joueur de haut niveau. Après, c'est vrai que sur ce match, il n'était pas très bien. Il faut voir à la longue, on ne peut pas juger les gens sur un match. C'est vrai que sur ce match, il n'était pas trop bien, mais peut-être que le prochain match, il sera très bien.
D'accord, très bien. Ensuite, donc le match suivant, c'était Lille qui recevait l'AS Monaco au stade Pierre-Mauroy. Et alors là, on a eu une démonstration de l'AS Monaco qui s'est imposée 4 à 1. Ouverture du score dès la deuxième minute par Djibril Sidibé, 17e minute, Adama Traoré double la mise, 47e minute, Fabinho triple la mise, j'allais dire, et 71e, Camille Glick pour le 4e but. Réduction du score à 90e minute de Julian Palmieri. Alors Lille,
c'est
on a dit...
C'est étonnant que Lille ait... moi je pensais qu'ils allaient du coup se dire c'est perdu et qu'ils allaient plus rien faire, et là non, on voit qu'ils ont quand même réduit le score, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté de jouer.
Ouais, mais on voit quand même, on l'a déjà dit, hein, un début de saison catastrophique pour les hommes de Frédéric Antonetti, quoi.
Ouais, c'est vrai.
On l'a dit et ça se confirme. Hein. Et par contre, une montée en puissance exceptionnelle de l'AS Monaco.
C'est vrai que l'AS Monaco,
qui monte en puissance, on en reparlera, qui s'est imposé face à Tottenham en Ligue des Champions, qui vraiment monte en puissance et peut vraiment concurrencer Paris Saint-Germain pour la première place cette saison. Hein.
Ouais.
Je pense que c'est vrai, c'est vrai. Bon. Ensuite, on avait le match suivant, c'est Nancy qui a gagné 2-0 au stade du Moustoir face à Lorient. Bon, on l'a dit, Lorient, un match catastrophique, mais un début de saison catastrophique, toujours 0 points pour le football club de Lorient.
Ouais, bah c'est clair, là,
on ne sait pas quand les points vont venir.
Là, Lorient, ça va pas du tout. C'est vrai que Nancy... je connais pas vraiment les conditions du match, mais Nancy est allé s'imposer à Lorient, c'est quand même très bien hein, pour eux. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que Nancy, on a l'impression qu'ils font un petit rebond et qu'ils reviennent un petit peu dans cette ligue hein, quand même.
Ouais, c'est clair, ouais.
C'est vrai. Ensuite, le match suivant, donc c'est donc Metz qui s'est imposé 3-0 sur le terrain de Nantes. Ça aussi, c'est quand même une surprise, le promu... Metz qui a fait un début de saison convenable hein, et qui s'impose
mal,
3-0
ouais,
face à Nantes. Est-ce que Nantes était vraiment dans ce match pour perdre 3-0 face à Metz hein? Je veux pas critiquer Metz, mais Nantes, vraiment, c'est quand même pas aussi pire que Lorient, bien entendu, mais Nantes ne fait pas un début de saison flamboyant non plus.
Oui, là, c'est clair, ouais.
On n'a pas, je veux dire, Voilà quoi, ils ont Nantes a donné un pénalty pour le dernier but à Metz. Bon, c'est quand même pas voilà, exceptionnel, hein, tout simplement. Ensuite, donc c'est le Stade Rennais qui s'est imposé 2-0 face au Stade Malherbe de Caen. On reparlera quand même du Stade Malherbe de Caen qui a ouvert cette cinquième journée qui se joue ce week-end, hein, hier soir, qui a reçu le Paris Saint-Germain, on en reparlera. Mais enfin bref, défaite 2-0 contre Rennes. Et puis on reparlera de la défaite qui a eu lieu hier soir.
Quand
est sur la mauvaise pente, j'ai envie de dire, quand même vraiment la mauvaise pente.
Ouais.
On disait que quand lors de la troisième journée avait l'air de se relancer, etc. Défaite, boum, 2-0 face à Rennes, pardon. On reviendra défaite 6-0 face au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a un problème à Caen là?
Bah ouais, je pense que là ça va pas du tout. Ils auraient pu faire bien mieux. Même contre le PSG, ils auraient quand même pu éviter de se prendre une raclée 6-0. Donc bon, c'est vrai que là, s'ils veulent pouvoir rester en Ligue 1 la saison prochaine, je pense qu'il va falloir quand même qu'ils se reprennent. Hein, parce que,
c'est vrai que Caen est auteur d'un début de saison plus que décevant quand même pour une équipe qui ne nous habituait pas à ça. On avait quand même une équipe de Caen qui n'était pas très très forte, mais qui quand même arrivait à aller chercher des points par-ci par-là contre des équipes assez importantes, et là il n'y arrive pas cette saison, même face à des équipes comme Rennes qui ne sont pas non plus insurmontables, je veux dire quoi.
Ouais, c'est clair, ouais.
Et enfin la clôture, c'est Nice qui s'est imposé 3-2 face à l'Olympique de Marseille à l'Allianz Riviera. Alors un très beau match, hein. L'ouverture du score à la 7ème minute de Super Mario Balotelli sur pénalty, hein, Mario Balotelli qui est auteur d'un doublé, on va en reparler. À la 14ème minute, égalisation de Florian Thauvin, il y avait donc 1-1 au bout de 14 minutes de jeu. Ensuite, c'est l'Olympique de Marseille qui a pris l'avantage dans ce match. À la 72ème, Bafétimbi Bigomi sur pénalty a marqué et a donné l'avantage. Donc, à un quart d'heure de la fin du match, l'Olympique de Marseille menait 2-1 à Nice. Donc, l'Olympique de Marseille était confiant et Nice a su mettre le coup d'accélérateur qu'il a fallu, puisque suite à ce but sur pénalty, à la 78ème, Mario Balotelli a donné son doublé pour l'égalisation 2-2. Et à la 88ème, Willian Cyprien donne la victoire à l'OGC Nice 3-2. Un match plein de rebondissements, hein. Et puis un Mario Balotelli bien en confiance pour son premier match en Ligue 1.
Oui, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il y a eu quand même deux pénaltys, hein, en un match. Hein.
Voilà, un pénalty pour l'OGC Nice, un pénalty pour l'Olympique de Marseille. Peut-être que les défenses étaient un petit peu plus faibles, du moins les attaques étaient présentes,
oui,
sur ce match.
Bien, ouais.
Est-ce que c'est une surprise de voir Nice s'imposer face à l'Olympique de Marseille pour vous?
Écoutez, Nice, ils ont quand même Mario Balotelli. Mario Balotelli, je pense, a envie quand même de faire ses preuves en Ligue 1. Et là, pour le moment, c'est réussi. Donc, moi, je ne suis pas totalement surprise. Après, c'est vrai que Marseille...
Marseille menait à un quart d'heure de la fin et aurait pu tout simplement s'imposer.
Ils se sont relâchés, il n'aurait pas fallu ça s'ils voulaient gagner.
Voilà, ils se sont relâchés et Nice a su garder la tête haute jusqu'à la fin du match. Ils n'ont pas, quand ils ont vu qu'ils étaient menés de 1, ils n'ont pas laissé tomber le match. Ils se sont dit, on va revenir, etc. Leur entraîneur Lucien Favre a aussi quand même cette... voilà, il ne veut jamais rien lâcher, Lucien Favre. Hein. C'est quand même aussi un grand entraîneur aussi. Hein. On a Mario Balotelli, pardon, mais on a aussi le grand entraîneur qui va avec quand même à Nice.
Voilà, donc c'est vrai que contre Nice, de toute façon, quand on sait qu'ils ont quand même Mario Balotelli et je sais que lui, il y a quand même plein d'autres joueurs qui sont très bons.
Oui, on a vu le jeune Cosiello, hein, qui est quand même très prometteur aussi à l'OGC Nice.
Et donc, contre Nice, quand on mène 2-1, il ne faut pas se relâcher, sinon forcément... ça pose vraiment des problèmes, voilà.
Voilà, donc on va faire maintenant le point sur le classement de notre Ligue 1. Le classement de notre Ligue 1. Donc là, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est leader avec le même nombre de points que Monaco, mais tout simplement parce qu'ils ont un match d'avance, hein, puisqu'ils se sont imposés
hier
6-0 face au Stade Malherbe de Caen. Évidemment, la différence de but est maintenant supérieure à celle de Monaco. Mais donc Monaco et Nice ont 10 points également, ils sont au même nombre de points, et donc n'ont pas encore joué. Ensuite, on a Metz, Bordeaux, qui ont tous deux 9 points. Ensuite, on a Guingamp qui a 8 points, Rennes 7 points, l'Olympique Lyonnais, Bastia et Caen avec 6 points. Donc l'Olympique Lyonnais à la 8ème position pour l'instant de cette Ligue 1. Ensuite, Toulouse, Saint-Étienne et Montpellier qui ont 5 points, Marseille et Lille qui ont tous deux 4 points, c'est-à-dire que Marseille et Lille occupent actuellement les 14e et 15e places de la Ligue 1, ce qui est quand même assez étonnant.
En effet,
Dijon à la 16e position avec 3 points, tout comme Angers, Nantes et Nancy qui ont 3 points. Et dernier pour l'instant,
Lorient,
relégable, Lorient, donc 0 points, toujours aucun point d'engranger dans cette Ligue 1.
Quand est-ce que ça va arriver?
C'est vrai que c'est assez étonnant, quoi.
Voilà, réponse bientôt.
Voilà, on va faire un point sur la 6e journée de Ligue 2, hein, qui se jouait aussi le week-end dernier. On va faire un point sur les résultats et puis le classement. Et puis ensuite, on parlera rapidement de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc, Amiens s'était imposé 3-1 face à Tours. Lens et Bourg-Péronne se sont séparés sur un match nul 1-1. Nîmes s'est imposé 3-1 face au Chamois Niortais. Auxerre a arraché le match nul face à Sochaux. Le Havre et Valenciennes ont fait 2-2. Strasbourg s'est imposé 2-0 contre 3. Le Red Star est allé gagner à l'extérieur face à l'AC Ajaccio 2-1. Clermont également à l'extérieur 2-0 contre Brest. Laval 3-1 contre Orléans. Et le Stade de Reims s'est imposé 2-0 face au Gazélec Ajaccio. Si on fait le point sur le classement de la Ligue 2, Marion.
Voilà, donc Amiens et le Stade de Reims se classent premier avec 13 points. Vient ensuite Strasbourg avec 12 points, puis
Brest, Sochaux et Clermont avec 11 points.
Avec 11 points, Valenciennes avec 10 points, Gazélec d'Ajaccio avec 9 points.
Tout comme Le Havre et le Red Star qui ont également 9 points.
Ouais.
Ont 8 points alors. Ont 8 points, Lens, Nîmes, Orléans, Ajaccio, l'AC Ajaccio et 3 ont 8 points. Voilà.
Ensuite, Tours et Bourg-Péronne ont 6 points.
Et Auxerre aussi.
Oui, ouais. Laval a 5 points. Points et Niort, dernier.
Voilà, les Chamois Niortais, dernier avec 4 points. Donc pour l'instant, le podium, Amiens, Stade de Reims, Strasbourg.
En effet, oui.
Avec...
C'est pas forcément attendu parce que Strasbourg monte, hein, donc.
Et Amiens également.
C'est vrai.
Amiens monte également du national. Donc pour l'instant, le podium sur 3 équipes, 2 viennent de la nationale.
Donc
et
c'est plutôt bien pour ces deux équipes, hein, parce que elles sont nouvelles et elles sont déjà premières communes. Après, bon, c'est vrai que c'est le début de la saison, rien n'est fait, mais c'est plutôt bien pour eux, ouais.
Ouais, en effet. Voilà, donc on va maintenant, comme on l'a dit rapidement, faire le point donc sur la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc on va commencer par la Ligue des Champions. Le premier match qui avait lieu, c'était mardi soir. C'était Paris Saint-Germain qui recevait Arsenal. Et Paris Saint-Germain tenu en échec, un partout face à Arsenal. Pourtant, l'ouverture du score dès la 1e minute pour le Paris Saint-Germain. Mais égalisation d'Arsenal plus tard dans le match qui vient donc quand même tenir en échec le Paris Saint-Germain.
Ouais, ouais, tenir en échec, c'est quand même un grand mot, parce que Arsenal, c'est quand même une grande équipe, donc c'est quand même pas mal pour le PSG d'avoir fait 1-1.
Oui, mais au Parc des Princes, on attendait plus du Paris Saint-Germain. Et est-ce que c'est encore une preuve que le Paris Saint-Germain n'est pas dans une forme extraordinaire pour l'instant dans ce début de saison?
Peut-être. Après, ils ont prouvé qu'ils savaient quand même se relancer avec le 6-0. Hein.
Voilà, donc après on reparlera quand même de ce match rapidement, mais je pense que sur ce match il y a eu Caen qui n'a pas joué tout simplement. Voilà, ensuite donc mercredi soir on avait deux autres matchs de Ligue des Champions. Donc on avait Monaco qui se déplaçait sur la pelouse de Tottenham. Monaco a su gagner 2-1 face à Tottenham. Ça c'est une super performance pour un club français. Bravo Monaco, et ça nous montre que Monaco est vraiment dans une forme extraordinaire en début de saison.
Vraiment impuissant, c'est... Et on espère pour eux qu'ils vont continuer comme ça, parce que c'est vrai qu'ils le méritent.
Ils le méritent, voilà. Ils ont réussi quand même à passer les deux tours de qualification face au Fenerbahçe, puis face à Villarreal, à se qualifier. Et premier match de poule de Ligue des Champions, ils s'imposent 2-1 à Tottenham. Donc c'est encourageant pour les hommes de Leonardo Jardim. Hein.
En effet, ouais.
Et puis le dernier match également mercredi soir, c'est l'Olympique Lyonnais qui recevait le Dynamo de Zagreb au Parc OL pour donc la poule de la Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions au Parc OL et première victoire pour l'Olympique Lyonnais. 3-0 face au Dynamo Zagreb qui a écrasé le Dynamo Zagreb très clairement. Le Dynamo Zagreb n'a pas vécu durant ce match.
Voilà, avec Lyon qui a réussi à se relancer. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'atouts, donc c'est assez surprenant. Mais bon, c'est quand même au Parc OL contre le Dynamo Zagreb, c'est la plus petite équipe de leur groupe.
Voilà. Et
donc
puis
s'ils voulaient avoir des chances de se qualifier en 8e, il fallait quand même qu'ils gagnent. Sinon, c'était
voilà.
Vraiment...
Et puis, on a eu une tactique inédite de la part de Bruno Genesio qui a complètement porté ses fruits. Hein, ce 3-5-1-1 avec
voilà,
donc une défense à 3.
C'est derrière Cornet. Hein. Donc, C'est vrai qu'ils sont en espoir de cette épreuve à cette place-là et il les a refaites contre le Dynamo, donc c'est vrai que c'est très bien pour lui.
Et avec quand même une défense à 3, hein, Nkoulou, Mapouyanga Mbiwa et Morel, et avec Raphaël et Ribus, plus ou moins milieu de terrain hein, et non pas défenseur.
Ouais, voilà. Après,
est-ce que c'est pas leur vraie place à Raphaël et Ribus finalement, milieu de terrain plutôt défensif mais qui passe sur les ailes? On voit le premier but, hein, c'est le premier but, il me semble que c'est un centre de Raphaël.
Ouais.
Le premier but c'est un centre de Raphaël pour une tête magnifique de Tolisso. Raphaël apparemment a fait un excellent match ce soir-là.
Ouais bah c'est clair, au milieu de terrain, c'est vrai que lui qui a tendance un peu à monter, ça peut être une place intéressante pour lui, sachant que c'est quand même un peu milieu de terrain défensif, mais bon, tant qu'à faire.
Voilà, est-ce que Bruno Genesio va reporter cette tactique face à l'Olympique de Marseille, ou est-ce qu'il va revenir dans un schéma pour le championnat plus classique, comme un 4-3-3? On a quand même appris l'arrivée de Jean-Philippe Mateta en provenance de Châteauroux à l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
Ça peut les aider avec l'absence de Lacazette qui se prolonge, l'absence de Fekir également, Valbuena et Grenier qui sont vraiment incertains, voire indisponibles contre Marseille, il me semble. Bon, d'accord, on a Cornet, d'accord, on a Kaloulou, mais un joueur comme Mateta, ça peut, c'est un profil qui n'existe pas trop encore à l'OL. C'est un joueur qui, je pense, peut vraiment faire ses preuves et percer à l'Olympique Lyonnais cette saison, hein, même en Ligue des Champions.
Ouais, donc ouais, espérons-le pour lui. Après, c'est vrai que le retour de la Casse ne va pas lui faciliter les choses, mais bon, c'est vrai que pour le moment, il est encore blessé et pour encore
un bon moment, pour l'Olympique
ouais.
Lyonnais. Voilà. Voilà, maintenant, on parle un petit peu, pardon, d'Europa League. Donc, on avait donc jeudi soir, pardon, donc l'Europa League, on avait Nice qui recevait Schalke, voilà, donc Schalke, une équipe très peu connue, hein, donc qui se déplaçait à l'Allianz Riviera. Alors Nice, d'accord, a fait ses preuves face à l'Olympique de Marseille avec un match excellent. Nice n'a pas fait ses preuves en Europa League, ils se sont inclinés 1-0 chez eux face à Schalke. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match très inquiétant quand même pour la suite de l'Europa League pour l'OGC Nice.
Ouais, bah c'est clair, c'est vrai que... Pour le moment, l'OGC Nice a très mal débuté son Europa League, il va falloir qu'il se reprenne parce que sinon ça a vraiment pas le faire comme on dit pour eux, hein, parce que chez eux ils perdent contre Schalke, c'est quand même pas super comme performance. Hein.
C'est vrai. Et l'AS Saint-Etienne, donc, il se déplaçait à Mainz 05, qui finalement a le match nul, mais enfin sans plus. Hein.
Ouais, en effet, ouais, c'est vrai qu'on attendait peut-être mieux d'eux quand même, mais bon, ils étaient à l'extérieur, on va voir ce qu'ils peuvent faire chez eux aussi, hein, parce que, c'est déjà mieux que Nice, hein.
Voilà, donc voilà. Tout comme face au Paris Saint-Germain, ils avaient égalisé à la dernière minute, face à Mainz 05, ils ont également égalisé à la dernière minute, là, Saint-Etienne. Ils étaient menés 1-0.
C'est vrai qu'il faudrait pas continuer comme ça, bon, c'est bien égalisé, mais faut pas continuer comme ça, parce que ça va vraiment leur poser problème. Si un jour ils n'arrivent pas à égaliser, ils perdent et puis...
Voilà, il y a un jour, égaliser à la dernière minute ne va plus fonctionner comme cela, hein, à mon avis.
Si les autres ont le temps de marquer deux buts,
voilà.
Voilà.
Après, on sait que Saint-Etienne est une équipe qui tient très très bien défensivement. Ça, il n'y a pas de problème, mais une défense, elle a beau être performante, elle peut faire des erreurs. Ça, sans problème, je veux dire. Hein.
Ouais.
Même face à des équipes pas très élevées. Bien. Donc finalement, si on reparle rapidement de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais est donc premier de son groupe puisque la Juventus a été accrochée par Séville 0-0 chez eux. Donc ça, c'est un très bon match de Séville, à mon avis.
Ouais.
Et puis Monaco également, hein, leader de son groupe puisque c'est le Bayern Leverkusen et j'ai un gros doute contre qui il jouait. Le Bayern Leverkusen, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, jouait contre le CSKA Moscou. Le Bayern Leverkusen menait 2-0 et a été repris 2-2 par le CSKA Moscou. Match nul, ça permet donc à Monaco de prendre la tête de son groupe de Ligue des Champions.
Voilà, donc très bonne performance par les deux clubs français.
Voilà, alors que le Paris Saint-Germain, lui, n'a pas pris la tête, tout simplement, de son groupe. Hein, en arrachant seulement le match nul face à Arsenal.
Voilà, mais Lyon et Monaco ont fait honneur à la France et...
Voilà.
Et voilà.
Bien, on va parler maintenant de la prochaine journée. Ce sera donc la cinquième journée. Rappel, cette cinquième journée se jouera en milieu de semaine, mardi et mercredi soir. Donc on se retrouvera donc pour le week-end prochain. On débriefera sur... Non, la cinquième journée se joue ce week-end. La cinquième journée se joue ce week-end. Elle a commencé avec Caen Paris Saint-Germain. Caen qui a gagné 6...
PSG
qui s'est imposé 6-0 face à Caen. On en reparlera rapidement si on a le temps. Et donc la sixième journée, elle, aura lieu en milieu de semaine, mardi et mercredi. Ce qui veut dire que le week-end prochain... Notre émission risquera de durer aux alentours des 1h, 1h10 plutôt que 45 minutes, puisqu'il faudra qu'on ait le temps de débattre des matchs de la cinquième journée, donc de ce week-end, et des matchs du milieu de semaine qui auront comptabilisé pour la sixième journée.
Voilà, ouais.
Voilà, donc on sera plus aux alentours de 1h, 1h10 que 45 minutes exceptionnellement. Je sais pas pourquoi le calendrier a été aménagé de telle manière qu'on a des matchs comme ça au milieu de la semaine. Je sais pas, peut-être pour équilibrer un petit peu le rythme par rapport aux clubs qui font la Ligue des Champions, je sais pas du tout. Donc oui, on a pour cette cinquième journée, Caen qui s'est incliné 6-0 chez soi face au Paris Saint-Germain, on en parle très rapidement. Caen qui n'a pas joué ce match, tout simplement. Moi, voilà, c'est ça que je dis, Caen n'a pas joué ce match face au Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est tout ce qu'on a à dire.
Quadruplé, Davinson, Cavani. Jean-Kévin Auguste, qui jouait dans l'équipe Espoir, a marqué son premier but sous les couleurs du PSG. Hein.
Voilà,
aussi,
ouais,
on peut quand même le remarquer. Donc c'est bien. Si on regarde les statistiques, 63% de possession pour le Paris Saint-Germain, 21 tirs pour le Paris Saint-Germain contre 13, 9 tirs cadrés contre 1. Ouais, voilà. Quand on a rien fait du match, et puis voilà. Hein, voilà. Alors on remarque quand même énormément de pénalties sifflées pour le Paris Saint-Germain. Face à l'AS Saint-Etienne, pénalty. Face, eh bien, à Caen, le deuxième but, donc Davinson Cavani, est sur pénalty également. De toute façon, on avait déjà l'habitude la saison dernière à ce qu'il y ait énormément de pénalty sifflés pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le fait qu'il y ait autant de pénalty, je ne dis pas qu'ils ne sont pas valables, mais ils ne sont pas tous flagrants, ces pénalty.
Ouais.
Est-ce que le fait qu'il y ait autant de pénalty pour le Paris Saint-Germain peut frustrer les autres clubs?
Forcément, ça, c'est pas peu, c'est ça les frustre, je pense, mais après,
certains pénaltys sont flagrants, d'autres sont vraiment pas flagrants et
d'autres sont pas valables.
Voilà, et certains pénaltys soit ne sont pas valables, soit sont valables mais ne sont sifflés pratiquement qu'au Paris Saint-Germain en Ligue 1.
Voilà.
Enfin, c'est sûr, ça frustre les autres clubs et du coup, est-ce que la compétitivité de la Ligue 1, on va l'obtenir comme ça? Je ne pense pas. Enfin bref. Donc le calendrier donc de la cinquième journée. Aujourd'hui, donc à 17h, Monaco reçoit Rennes. Un match intéressant pour voir si Monaco, qui est sur une série exceptionnelle, on l'a déjà dit, confirme face à Rennes. Hein.
Voilà, ouais.
Ensuite, Bordeaux reçoit Angers, Dijon reçoit Metz, Lorient reçoit Lille. Lorient reçoit Lille, c'est un match intéressant parce que Lorient a toujours 0 points. Est-ce que Lorient va savoir arracher son premier point de la saison? Lille est sur la très mauvaise pente, est-ce que Lille va savoir surprendre? Ça peut être un match intéressant entre des équipes qui ont énormément de mal en ce moment.
En effet, oui.
Donc on va voir qui arrive à prendre l'ascendant. Si on fait juste un petit pronostic comme ça, vous diriez quoi?
Moi je dirais match nul.
Moi je dirais victoire de Lille. Hein. Je vois vraiment pas Lorient s'imposer, même arracher le nul, je vois vraiment Lorient sur une très mauvaise pente. Et pourquoi pas Lille se relancer, tout simplement. Bon bref, Nancy reçoit Nantes. Toulouse reçoit Guingamp, ça c'est aussi un match intéressant. Les hommes de Pascal Duprat ont besoin de se relancer. On l'a vu, ils ont perdu à Bastia. Ils ont fait match nul contre Saint-Etienne, ils ont besoin de se relancer contre Guingamp. Mais attention, Guingamp est quand même, alors n'est plus leader, mais Guingamp est dans le haut du classement. Et Guingamp, je pense, a envie de confirmer son très bon début de saison.
Ouais.
Donc ça sera aussi un match à suivre. Montpellier qui va recevoir Nice. Tout simplement suivre les suites de Mario Balotelli hein, sur ce match, j'imagine.
Oui, en effet, oui.
L'AS Saint-Etienne qui reçoit Bastia. Alors voir si Saint-Etienne, suite au match nul en Europa League, arrive à se reprendre face à Bastia, qui reste sur une victoire de rang face à Toulouse.
Ouais,
voilà. Et puis le choc de la journée, hein, l'Olympique de Marseille reçoit l'Olympique Lyonnais. Alors l'occasion de voir si l'Olympique de Marseille se relance suite à sa défaite face à Nice, c'est au stade Vélodrome. L'occasion de voir si l'Olympique Lyonnais va garder la bonne dynamique qu'ils ont engrangé en Ligue des Champions face au Dynamo de Zagreb et mettre fin à la série cauchemardesque en Ligue 1. Bon, alors on en parlait, c'est vrai. Quelle tactique pour l'Olympique Lyonnais selon vous?
Je sais pas du tout, je pense que Bruno Genesio va décider de prendre la même technique
en Ligue des Champions.
Que la Ligue des Champions, ouais.
Voilà. Je sais pas, moi je suis partagée, je ne suis pas sûre que Bruno Genesio prenne entre guillemets le même risque que face au Dynamo Zagreb, même si ça a vraiment payé. On verra. Alors il a dit que Mateta certainement ne jouerait pas, mais serait normalement du déplacement, Mateta.
Oui, ouais.
Voilà. Donc Mateta, c'est quand même. Voilà, intéressant. Alors moi j'aimerais bien le voir jouer, Mateta. Hein. Je pense pas qu'on le voit dès cette journée, mais bon, on
non,
sait jamais.
Pas. On rappelle hein, que les supporters olympiques l'année dernière ont été interdits de déplacement.
Ouais. Bon, ça a provoqué un petit peu des réactions du côté de l'Olympique Lyonnais et de Jean-Michel Aulas, bien sûr. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui a demandé à l'Olympique Lyonnais de venir avec un car entre guillemets anonyme, sans faire apparaître le nom du club, et Jean-Michel Aulas qui a rétorqué que l'Olympique Lyonnais viendrait avec son autocar. Et
ouais,
que la police va un petit peu trop loin et carrément commence à vraiment gâcher le plaisir du football français.
On ne sait pas, après c'est vrai qu'on connaît les tensions qui existent entre les deux clubs, donc mieux vaut éviter les risques, hein, parce que bon, voilà, après, bon, carrément empêcher l'OL de venir avec son vrai car, c'est quand même un peu exagéré. Après,
je pense que Marseille est une ville qui a largement les moyens d'assurer la sécurité. Maintenant, je pense que tous les moyens ne sont pas déployés, tout simplement.
Peut-être, ouais. Après, c'est vrai que les supporters marseillais sont des fois déchaînés, quand même. Hein. Voilà.
On verra comment ça se passe. Hein. C'est toujours pareil. Il y a des supporters qui viennent vraiment pour supporter l'Olympique de Marseille. Et puis, il y en a qui viennent...
Pour le plaisir de faire un bazar. Comme
voilà.
Dans tous les clubs. Hein.
Voilà, voilà. Comme dans tous les clubs. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus accentué dans certains. Alors juste un mot avant le top et le flop de la journée, je voudrais qu'on parle à nouveau hein, du Paris Saint-Germain, puisque hier contre Caen, Hatem Ben Arfa n'était pas du voyage. Hatem Ben Arfa a été écarté du groupe du Paris Saint-Germain, il a déjà été écarté pour le match de Ligue des Champions face à Arsenal. Est-ce qu'on a un début de crise entre Unai Emery et Hatem Ben Arfa, qui a quand même été acheté à prix d'or à l'OGC Nice? Est-ce que c'est pour qu'il soit laissé comme ça? Est-ce que... il a un petit problème physique ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de relation avec Unai Emery? On sait qu'Unai Emery, c'est un entraîneur qui n'hésite pas, même si un joueur a coûté cher, même s'il a un statut important dans le club, à le laisser sur le côté. Ça, on le sait. Est-ce que... je sais pas.
On a vraiment aucune idée de ça. On peut vraiment pas vous éclairer. Après, c'est vrai que s'il commence à y avoir des tensions entre Hatem Ben Arfa et son coach, c'est vrai que...
Ça va être compliqué. Alors on sait, hein, Hatem Ben Arfa donc était à Nice, il a fait une saison flamboyante l'année dernière. Est-ce que Hatem Ben Arfa va faire une saison aussi flamboyante à l'Olympique Lyonnais? Moi, à l'Olympique Lyonnais. Pardon, au Paris Saint-Germain, moi je n'en suis pas sûre. Est-ce que, enfin je sais pas.
Moi je pense pas parce que déjà il sera pas titulaire tout le temps.
Voilà, hein, il a Edinson Cavani,
voilà.
Il est doublure d'Edinson Cavani, hein, donc je veux dire c'est quand même pas non plus le joueur CFA.
Voilà.
Et puis, donc on sait, hein, Hatem Ben Arfa, il a eu proposition du Paris Saint-Germain, il a eu proposition d'autres clubs à l'étranger, comme en France, par exemple, à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Hatem Ben Arfa n'aurait pas dû choisir d'aller à l'Olympique Lyonnais? Étant donné en plus les circonstances, blessure de Lacazette, blessure de Fekir, blessure en
Après,
cascade,
ouais,
Ben Arfa aurait eu une place de titulaire, même en Ligue des Champions, là, en ce moment, avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce que... pour, alors c'est sûr, il aurait peut-être été moins payé, etc. Mais est-ce que pour sa carrière personnelle, il n'aurait pas mieux fait de retourner dans son club formateur quand même, l'Olympique Lyonnais?
C'est vrai que, il savait pas hein, que la Gazette allait se décider,
oui, oui, bien
hein,
sûr.
Mais bon, ni Fekir, mais bon, c'est vrai que il était quand même avec, je pense, assuré d'avoir, d'être dans le... on type aux côtés de Lacazette, je pense, quand même.
C'est
parce
possible.
Que la Ben Arfa, c'est quand même du haut niveau. Faut pas, on va pas se mentir, quand même. Hein.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Donc, bon.
On l'a vu hier, Unai Emery préfère faire jouer Jean-Kévin Augustin, l'espoir, que Hatem Ben Arfa, finalement. Il a fait rentrer Jean-Kévin Augustin, il a laissé Hatem Ben Arfa à la maison.
Bon, après, Ben Arfa n'est pas venu à Lyon, il en paye les conséquences et on verra si ça lui porte... finalement ça va l'aider ou non.
Voilà, tout simplement. Très bien, je veux juste avant le top et le flop, hein, désolé, faire un petit tour très rapide sur la sixième journée, puisque la sixième journée, on a dit, elle se joue mardi et mercredi, donc on n'aura pas le temps d'en reparler. Juste, il y en a quelques affiches quand même importantes. Alors, Lille-Toulouse, Paris-Saint-Germain-Dijon, Est-ce que Dijon est capable de faire l'exploit ou Dijon, bon, ils y vont en se disant c'est déjà perdu au Parc des Princes face à un PSG qui a gagné 6-0
Bah, moi, après, je pense que quand ils n'ont rien fait, Dijon, je pense qu'ils sont capables de faire des choses. Ils viennent de monter et moi, j'ai des espoirs en eux et je voudrais qu'ils ne viennent pas en se disant c'est perdu. Je voudrais qu'ils viennent en essayant de faire quelque chose.
C'est ce qu'a dit Christophe Galtier. Il faut que les clubs viennent en se disant qu'ils peuvent battre le Paris Saint-Germain. Voilà. Alors voilà, je pense que à mon avis, dans les mentalités dijonnaises, dans le staff, etc., ça va être bon, on vient, on essaye de ne pas prendre une raclée.
Oui, mais moi, s'ils peuvent essayer de gagner, ça peut être bien.
Bon. Évidemment, voilà. Pour eux, ça sera bien, mais bon. Ensuite, on a Angers-Caen, Bastia-Nancy, Guingamp-Lorient. Bon, Guingamp-Lorient, le choc de l'Ouest, mais enfin, bon, pas trop de suspense à mon avis. Olympique Lyonnais-Montpellier. Metz-Bordeaux, Nantes-Saint-Etienne, Nice-Monaco. Ça, c'est quand même un match intéressant. On va essayer d'en débattre quelques instants. Nice, qui est au même nombre de points pour l'instant que Monaco. On verra, enfin, on verra ensuite à la fin de cette cinquième journée. Et à la sixième journée, Nice reçoit Monaco. Deux équipes quand même qui, voilà. Bon, Monaco quand même qui monte plus en puissance que Nice, mais bon.
Oui, c'est vrai que Nice...
Ça va être un match intéressant.
À Mario Balotelli, à Codiello, ils ont plein d'autres gens. Monaco est sur une très bonne dynamique, donc on verra, ça peut être un très bon match, hein, donc on espère qu'ils vont nous régaler, puis on verra quel est le résultat final.
Très bien. Alors on passe maintenant au top et au flop de Thomas et Marion. Donc quatrième journée, Marion, quel est votre flop?
Alors moi, mon flop, quatrième journée, ça serait...
On rappelle, un flop et un top, ça peut être un arbitre, un match, un joueur, un entraîneur, un président... Voilà, ça peut vraiment être n'importe quoi, mais le flop de cette quatrième journée.
Ouais, alors moi, mon flop, ça serait... Ça serait l'OL, parce que ils ont marqué à la première... Ils ont marqué vraiment au tout début de match, et après, ils se déconcentrent et ça finit en...
C'est
finale,
dommage pour eux, voilà, de finir, ouais, de voilà. Bien commencer cet après-midi et de la finir comme, vraiment, comme l'a dit Jean-Michel Aulas, un cauchemar, quoi, ouais. Vraiment. Ok, alors mon flop à moi... C'est vrai que c'est assez compliqué, j'hésite entre plusieurs. Mon flop à moi, ça serait Jérémy Morel. Toujours dans ce fameux match Olympique Lyonnais-Bordeaux. Jérémy Morel, personnellement, c'est vrai qu'on a vu le match hein, en intégralité. Jérémy Morel, pour moi, n'a rien fait du match. Il n'a rien apporté défensivement, il n'a rien apporté offensivement. C'est vrai que Jérémy Morel, bon, est-ce qu'il pourrait se faire doubler par Jordi Gaspard? Peut-être, hein.
Oui, bah ouais, c'est clair, ouais.
Possible. Il y a quand même Ribus aussi qui fait concurrence à son poste. Mais c'est vrai que j'hésitais aussi avec Lille en flop, parce que Lille, franchement, me déçoit énormément en ce début de saison. Hein.
Ouais.
C'est vrai. Alors, votre top maintenant pour cette quatrième journée, qu'est-ce qui vous a épaté, qu'est-ce qui vous a plu?
Alors, moi, mon top, ça sera...
C'est pareil, hein. Moi j'hésite entre plusieurs, il y a beaucoup de choses
ouais,
très bien
aussi,
durant le
c'est vrai que... Attendez, je regarde quelque chose pour me décider parce que...
Moi personnellement, c'est vrai que pour mes tops, hein, si je peux prendre la parole, j'hésite entre l'AS Saint-Etienne, qui allait arracher un match nul à la dernière minute au Parc des Princes, qui est vraiment pas facile. J'hésite avec aussi quand même Nice, qui a quand même fait un très très bon match face à l'Olympique de Marseille. Bon, j'hésite entre plusieurs, c'est vrai. J'hésite aussi entre, toujours dans le match Olympique Lyonnais-Bordeaux, Mukhtar Diakhaby, ce jeune, qui a été préféré à Nicolas Nkoulou pour cette rencontre et qui a fait une rencontre très très impressionnante, qui pourrait être le futur Umtiti de l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
Donc j'hésite entre tout ça, je sais pas.
Et puis alors moi du coup, mon top, ça y est, j'ai décidé... Ça sera l'AS Saint-Etienne qui a réussi à faire match nul contre le PSG. Et je pense que, sachant qu'ils ont quand même eu un pénalty contre eux, donc
voilà, je pense que c'était vraiment pas facile.
Pour moi, c'est mon top, ouais.
Très bien. Alors, moi, mon top, bon, bah, il va falloir se décider. Je l'ai dit, il y en a plusieurs. Mario Balotelli. Hein, Mario Balotelli.
Ouais, d'accord, ok.
Mario Balotelli et son équipe tout entière, hein, qui a fait une première en Ligue 1 exceptionnelle avec une équipe de Nice très, très. Enfin, très bon esprit d'équipe du côté de l'OGC Nice qui a su venir à bout de l'Olympique de Marseille, donc bravo.
Voilà, alors moi mon top, ça aurait aussi que Diakabina.
C'est vrai que Diakabina, c'est un très bon match. Mon top, ça aurait également pu être Nancy, qui se relance très bien face à Lorient.
Oui, c'est vrai, oui.
Mon top, ça aurait également pu être Metz, qui nous impressionne beaucoup en début de saison. Bon, voilà, hein, après, on choisit, et puis voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'était Parlons Ligue 1, hein. On a parlé donc de cette quatrième journée, et puis de cette sixième journée de Ligue 2. J'espère que cette émission vous a plu. Marion, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être?
Non, bah, écoutez, si ça vous a plu ou pas, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous donner des conseils.
Voilà.
Voilà. Nous dire ce que vous en pensez, quoi. Ça nous fera toujours plaisir. Même si c'est pas...
Ça peut être une critique positive ou négative. Dans tous les cas, on essaiera de prendre en compte cela. Voilà, merci à vous. C'était Parlons Ligue 1. Au revoir à tous. Au revoir, Marion.
Au revoir. Au revoir à tous.